Je suis très heureuse d'être la première à parler aujourd'hui sur le sujet qui nous concerne et qui concerne toutes les personnes présentes, je suppose, puisque vous avez fait le déplacement. Alors, je fais une présentation rapide de la FNAPSI pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, je pense que les trois quarts connaissent. C'est la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie. Pour la petite histoire, ça a commencé à être la Fédération nationale des associations de patients des services psychiatriques, puis des patients en psychiatrie. Et maintenant, pour le moment, nous sommes usagers de la psychiatrie. Actuellement, 54 associations, toutes composées, gérées de personnes en situation de handicap psychique, c'est ce qu'on dit, mais pour nous, de personnes souffrantes. Le point commun, c'est la souffrance. Ça n'est pas une maladie spécifique, sauf certaines associations comme Mediagora. Et nous avons actuellement plusieurs associations nouvelles qui sont en demande d'affiliation. Il faut savoir que c'est assez difficile de rentrer à la FNAPSI, c'est très facile d'en sortir. C'est le contraire de l'hôpital psychiatrique. Puisque les associations sont toutes composées de personnes en souffrance psychique. On ne demande pas un certificat médical. Nous pensons, et ça a été un débat il y a 20 ans, nous pensons que le fait de se déclarer en souffrance psychique est suffisant parce que, vu la stigmatisation que ça comporte dans la société civile, on estime que c'est une entrée suffisante. C'est important, la FNAPSI existe depuis 25 ans, nous fêtons nos 25 ans cette année. C'est important de savoir la démarche des personnes pour prendre la parole elles-mêmes. Longtemps, la parole a été portée par l'UNAFAM, par les familles. Il y a eu les années SIDA et il y a eu un électrochoc chez nous de dire, ben, puisque les personnes stigmatisées par le SIDA prennent la parole, nous, on doit pouvoir la prendre aussi. C'est comme ça que ça a commencé, toujours avec le regard bienveillant et l'aide, même l'aide importante, des professionnels. Le premier, ça a été le professeur Zarifian. Et ensuite, on peut dire que les professionnels nous ont vraiment accompagnés. Ça changeait, mais nous ont accompagnés dans notre démarche. C'était une démarche difficile. Hein. Comprenez bien qu'aller dire dehors, je fais partie d'une association, ah très bien, quelle association ? Une association de personnes en souffrance psychique, ça ne se disait pas comme ça à l'époque, c'était des fous. Hein. Je me rappelle une assemblée générale qu'on a faite à la Chartreuse à Dijon, on avait loué un car et la personne qui louait le car nous a dit « mais vous êtes qui ? Comment ?» C'était super sympa, on était une centaine dans le car. Et puis, c'était la présidente de Mediagora qui s'occupait des sandwichs. Donc, on a mangé dans le car. Alors, elle passait partout avec un sac poubelle. Vous voyez, il n'y avait pas un papier dans le car. Et le monsieur qui conduisait le car était tout content. Il a dit, quelle association ? J'adhère. J'ai dit, monsieur, attendez qu'on arrive en destination. Et quand on a passé la porte de la charité, j'ai dit, voilà, nous sommes dans un hôpital de fous. Nous sommes des fous. Et il m'a dit, si c'est ça, j'adhère. Bon. Je me suis dit, on a peut-être gagné quelque chose ce jour-là, en moins une déstigmatisation, parce qu'on était extrêmement polissés et propres. Voilà, alors, nous avons pris l'habitude de prendre la parole. Ça n'a été pas facile. Je me rappelle la première fois aussi que j'ai pris la parole. Je tiens à vous le dire, parce qu'il faut savoir dans la vie d'où on vient, où on est, pour savoir où on va. La première fois où j'ai pris la parole, il y a 18 ans, c'était devant 600 psychiatres. Et j'avais été invitée déjà par le président de la conférence de l'époque. Et j'ai dit, donnez-nous la parole. Et il y a un psychiatre qui a trouvé intelligent de me répondre, je ne sais pas qui c'est. Hein. Il était dans la salle, je ne voyais rien, moi. Et il a dit, madame, la parole ne se donne pas, elle se prend. Après, j'ai rencontré le psychiatre. Et il m'a dit, bah, dites donc, vous l'avez bien prise, la parole. Hein. Eh bien oui, on m'a dit, il faut la prendre, je l'ai prise. Alors, je vous dis ça parce que il y a quelque chose de très important qu'il faut que vous sachiez de votre place. Seul l'usager peut parler en son nom de son expérience directe. Ça, il faut le savoir. C'est l'importance du travail ensemble, mais en respectant la place de chacun. Aujourd'hui, vous avez une journée d'études qui a été portée, inventée par les 6 organisations qui sont quelque chose de très beau que nous avons en France. Vous savez, la psychiatrie française est très innovante. Nous, on a l'habitude d'aller travailler avec la psychiatrie du nord de l'Europe, qu'on copie beaucoup, qui sont très en avance pour certaines choses. Mais nous aussi, on est en avance et on ne sait pas le faire savoir. On sait faire, mais on ne sait pas le faire savoir. Et parmi les situations extrêmement innovantes, je ne vais pas parler des groupes d'entraide mutuelle, ce n'est pas le jour aujourd'hui, mais ce groupe des 6 que vous avez, qui travaille en amont sur les sujets difficiles, et il y en a des sujets difficiles, entre la FNAPSI et l'UNAFAM, entre les usagers directs et les familles, entre les usagers directs, les familles et les professionnels, entre les usagers directs, les familles, les professionnels et les institutions qui sont représentées aujourd'hui dans notre groupe des 6 par la FEAP et la FHF, parce que nous avons aussi ces 2 entités importantes. Nous avons la psychiatrie publique et puis les ESPIC, comme on appelle maintenant, qui sont aussi, quand on prend l'origine, quelque chose de fondamental en France, avec les congrégations religieuses qui se sont occupées des personnes que je représente en son temps, quand on en avait vraiment besoin. Donc c'est très important ce que vous avez, ceux qui ont organisé aujourd'hui, et c'est très important parce que nous sommes dans une période de, je ne vais pas dire de révolution, mais d'évolution et d'adaptation de la médecine et des services aux personnes. Une période très importante, une période qui finit, qui date de la libération, hein, d'ailleurs la salle Larocque, on sait la sécurité sociale, enfin toutes ces choses-là. Mais cette période d'évolution, elle est irréversible. On ne l'arrêtera pas. Et elle est fondamentale parce qu'elle va fondre la nouvelle société, celle qu'on va donner à nos enfants. Alors, il reste que, n'ayant pas anticipé, parce qu'on s'est laissé un peu aller, hein, tous autant les uns que les autres sur les 30 glorieuses, cette évolution, elle est faite à marche forcée. Tout du moins, on la ressent comme ça. Elle est faite à marche forcée. Et nous devons, et là je vous le demande, parce que si vous êtes tous là, c'est quand même pour prendre take care des personnes que je représente. Sinon, vous n'avez rien à faire dans cette salle, tous autant les uns que les autres. Qui est important ici? Je ne veux pas, ce n'est pas mes chevilles qui enflent, mais c'est la catégorie des personnes que je représente, la catégorie des personnes qui sont en souffrance, la catégorie des personnes qui ont une pathologie, on va dire la chose, non pas de la liberté, comme disent les psychiatres, mais de la limite. Parce que je suis une personne comme vous, mais je suis une personne, et je le dis franchement, sans honte, avec beaucoup de peine, parce que ça me touche, c'est ma vie, je suis une personne qui peut dépasser une certaine limite et devenir, contrairement à ce que vous pouvez penser, parce que vous devez vous dire la mère Finkelstein, elle est bien sûr propre sur elle, on ne sait même pas si elle est vraiment malade, qui peut être dangereuse. Je tiens à le dire, ça m'est arrivé et je sais que ça peut m'arriver encore. Dangereuse pour soi et pour les autres. Parce que contrairement à ce que certaines personnes pensent, la société notamment, il y a 2 catégories chez les fous. Il y a ceux qui sont dangereux pour eux et ceux qui sont dangereux pour les autres. C'est faux. C'est la même catégorie. Ça dépend des circonstances et ça dépend de la souffrance qu'on a ce jour-là et dans l'état où on est ce jour-là. Donc, ces personnes que je représente, je vous demande de faire table rase de vos demandes catégorielles. Je vous demande qu'on réfléchisse ensemble, et c'est le travail que l'on fait avec ces 6 entités qui vous invitent aujourd'hui. Je vous demande qu'on réfléchisse ensemble à ce que nous voulons et à ce que notre société peut faire en ce qui concerne la protection sociale et la solidarité. Notre société dont nous faisons partie, je tiens à vous dire tout de suite, nous ne sommes pas, puisque les adhérents de la FNAPSI, environ 5000 personnes, nous ne sommes pas dans les personnes qui disent « vous devez nous donner ». Nous savons que tout ce qui est droit entraîne des devoirs. Chez nous, la première chose qu'on apprend, et je fais des formations là-dessus, quand tu as un droit, tu as un devoir. Il faut chercher quel droit tu as, c'est ton droit, mais il faut chercher quel devoir ça entraîne. C'est important, c'est une question de société et nous sommes des citoyens comme les autres. Nous avons la chance en psychiatrie d'avoir depuis presque 20 ans cette volonté de travailler ensemble. Cette volonté de travailler ensemble a commencé avec la signature de la charte de l'usager en santé mentale entre le président de la conférence des présidents des CME, des CHS de l'époque et la FNAPSI et la secrétaire d'État aux personnes, secrétaire d'État à la santé de l'époque. C'était très important. Là-dessus, se sont raccrochés, grâce au travail et au regard qu'ils ont eu sur nous, la famille, les institutions. C'est très important qu'on continue ça et c'est très important que vous respectiez, quand ce travail en amont est fait par vos représentants, que vous respectiez ce travail et que vous soyez heureux de ce qu'on gagne. Parce que souvent, j'entends ici et là, « Ah, mais vous n'avez pas eu ça, on n'a pas eu ça, etc. » Catégoriellement, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut regarder, c'est le travail qu'on fait ensemble et ce qu'on obtient. Parce que je peux vous dire qu'on a obtenu beaucoup de choses dans ce travail. Et j'en remercie ceux qui ont œuvré, notamment Christian Muller, pour les derniers temps. Alors, cette force de travail, elle continue, même, et ça, je l'ai déjà dit à une autre personne, et je le redis aujourd'hui parce que je me suis rendu compte en le disant que c'était très important, même si les personnes ont changé. Quand on a travaillé ensemble, ce n'était pas Madame Borrell. Ça a été avec M. Canevas d'abord. Et maintenant, c'est Madame Borrell. Ce qui montre que c'est les institutions qui travaillent ensemble. Moi, je suis encore là. Mais j'espère, et ça continuera avec celui qui me suivra, parce qu'il ne pourra pas revenir sur ce qui s'est passé. Ça a été d'abord Halimi, puis Dole, Halimi. Maintenant, c'est Christian Muller. Et le prochain, ça sera. Les deux anciens qui restent, c'est David, la FEAP et moi. Mais les institutions sont là et c'est très, très important. Alors aujourd'hui, nous sommes devant une définition du territoire qui reste, qu'on veuille ou pas, à inventer. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est à nous de montrer qu'est-ce que c'est le territoire. Quand ils ont vu ce qu'on faisait, j'ai eu beaucoup de mails de gens de chez moi qui ont dit, tu sais, le Claude essaye de faire passer que le territoire, c'est l'endroit où on peut aller se faire soigner et où on peut trouver un gemme ou quelque chose pour vivre bien ensemble. C'est ça, un territoire. Alors, ça peut être très restreint dans une grande ville comme Paris. Ça peut être très étendu quand on habite Limoges. Peu importe. C'est nous qui définissons le territoire. Par contre, je compte sur vous, et ça, on peut vous aider à votre demande, mais ce n'est pas nous qui pouvons inventer, de défendre notre place dans les GHT. Ça ne sert à rien de lutter contre les GHT. C'est acquis, c'est fini. Mais défendez la place de la psychiatrie. C'est très important. La psychiatrie est innovante. Qui a inventé le maillage? Qui a inventé les territoires? C'est nous, c'est la psychiatrie. Hein? Alors le secteur, il vaut ce qu'il vaut. Il a été copié dans le monde parce que c'était une bonne idée. On n'a pas toujours suivi, mais il faut défendre ce qu'on a inventé. La psychiatrie est innovante. Continuez et soyez fiers de ce que vous faites. Voilà. C'est toute notre force d'invention et d'adaptation. C'est dur de s'adapter au terrain quand on est une personne en souffrance psychique. C'est terrible. Et quand vous nous accompagnez, vous êtes dans le même bateau. Donc c'est à vous de nous accompagner. Adaptez-vous, soyez innovants et soyez fiers de ce que vous êtes. Ça, si je peux vous passer ça aujourd'hui, ça sera important. C'est à nous, citoyens, parce qu'on est tous citoyens ici. Quelle que soit notre place, mais gardons bien notre place. N'essayons pas de faire à la place des autres. Moi, je ne vais pas dire à un professionnel, même si je ne le trouve pas très bon, je ne vais pas lui dire ce qu'il a à faire. C'est son boulot. Mais moi, mon boulot d'usager, croyez-moi, vous savez, je le tiens. C'est à nous d'œuvrer au mieux sur le terrain pour utiliser les ressources qui sont mises à notre disposition par la société dont nous faisons partie. N'oubliez jamais, ça ne sert à rien de réclamer. Allez, le ministère, il faut nous donner. C'est à nous de travailler, de forcer, d'équilibrer. N'oubliez pas l'écologie, pas comme elle est les mouvements écologistes, etc. Prenez l'écologie au sens propre du mot, l'équilibre. Et c'est à nous de travailler. Soyons intelligents, montrons-le, la route de ce qu'il doit faire. Et c'est à nous de le faire au mieux pour le bien-être de nous tous. Allez, bon courage et bonne journée.
Bonjour à tous. Alors, c'est difficile de prendre la suite de Claude qui est toujours enflammé et effectivement, moi j'entends vraiment son discours et je la laisse toujours parler en premier parce qu'effectivement, quand on est ensemble, l'usager c'est elle d'abord. Voilà. Alors, moi je vais avoir. Alors, je ne sais pas, elle m'a mis.
Oui,
elle m'a mis. Voilà. Je vais avoir un propos qui va être concret pour entrer dans cette journée. Parce que, effectivement, moi, l'autre fois, on avait un échange avec Claude et j'ai dit, enfin, finalement, ces problèmes de territorialité, quel est notre. Comment. Enfin, pourquoi ça nous intéresse? En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir un certain nombre de réponses sur un territoire. C'est ça qui nous importe. Et je voudrais, puisque le décret sur le projet territorial de santé mentale n'est pas, je crois qu'il n'est pas encore sorti, mais il va sortir certainement très, très prochainement, je voudrais dire quels sont les points clés pour nous, familles. Alors, je vais d'abord effectivement rappeler qui est l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et handicapées psychiques. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas facile de retrouver là-dedans le sigle de l'UNAFAM. Nous sommes une association donc d'abord de familles, bien que nous ayons des adhérents qui sont des personnes malades. Nous sommes sur tout le territoire et c'est un pari en fait d'être sur tout le territoire, c'est-à-dire on a une centaine de délégations, on a plus de 2200 bénévoles et vous imaginez bien que c'est quelque chose de compliqué pour animer tout ce réseau. Et notre vocation première est effectivement de soutenir les familles, de les former et de les aider puisque jusqu'à aujourd'hui, l'accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques sont souvent accompagnés par les familles. Hein. On sait qu'un grand nombre sont accompagnés par les familles, ce qu'elles ne revendiquent pas, bien entendu. Hein. Et donc, cette importance du soutien aux familles, pour nous, on devrait finalement travailler que là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau tout au moins de notre siège et de l'animation nationale, on est à 90% de notre temps sur la défense des intérêts des personnes malades et des personnes et des familles. Donc vous voyez, en fait, on est une association de familles et on passe au niveau national et beaucoup, quand on est dans les représentations au niveau local, dans cette démarche de défendre les intérêts des personnes qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Voilà. C'est pour ça que je veux rappeler ce qui est important pour nous, puisqu'on parle d'un territoire, eh bien, il faut que sur un territoire, on trouve tout ce que je vais vous présenter. Alors, ça va être effectivement le territoire, quelquefois, il va être un peu réduit, puis d'autres fois, il va être plus grand, on va pas forcément. Mais il faut qu'il puisse y avoir une réponse qui soit équivalente sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, la notion d'équité et la notion aussi, je reviendrai peut-être à la fin là-dessus, qu'on n'accepte pas qu'il y ait des zones découvertes. Parce qu'il y a des régions en France où, effectivement, il n'y a pas de réponse. Et je pense à des régions, effectivement, je suis souvent sollicitée par l'Aisne. Ce sont les régions dans lesquelles il n'y a rien à proposer. Il y a un déficit de soignants, un déficit de psychiatres, un déficit de tout. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, moi, je veux que, sur l'ensemble du territoire, on trouve tout ce que je vais vous présenter. D'abord, le repérage précoce des troubles psychiques. Pourquoi un repérage précoce des troubles psychiques? Parce que s'il n'y a pas ce repérage, il y a des risques d'installation de troubles avérés, parce qu'il y a des risques de rupture scolaire pour les plus jeunes, l'usage et l'abus de substances, des délits, des fugues, et comme le disait tout à l'heure Claude, des comportements agressifs par rapport à soi et par rapport aux autres. Et puis, s'il n'y a pas ces soins et cet accompagnement dès le début des troubles, il y a un risque de majoration du handicap. Et donc, nous avons à lutter contre l'installation du handicap. C'est vraiment notre objectif. Deuxièmement, la prévention et la réponse aux situations de crise et d'urgence. Alors, la loi de 2011 indique qu'il va être mis en place partout des urgences qui vont répondre aux appels de différents interlocuteurs. C'est vrai, depuis 2011, et heureusement, depuis 6 ans, il y a eu un certain nombre de progrès, c'est-à-dire il y a vraiment des territoires dans lesquels il y a eu tout un travail de réflexion avec différents partenaires pour qu'il y ait cette mise en place d'urgence. Et puis, il y a encore beaucoup, moi je reçois beaucoup de courriers, beaucoup nous est signalé, effectivement, des familles qui ont un proche qui est en situation de crise, qui est en retrait complet, qui ne se nourrit plus. Moi j'ai reçu encore récemment une lettre qui est complètement enfermée chez lui et personne n'intervient. On n'est pas, voilà. Donc ce que l'on demande, c'est qu'il y ait des solutions connues, repérables et une réactivité aux appels. On a su, et je trouve que c'est très bien, on a su mettre en place très rapidement par rapport aux situations d'attentats, qu'il peut y avoir des cellules psychologiques qui sont mobilisées, qui sont organisées, eh bien, c'est important que ce soit fait. C'est aussi important pour les nôtres. Ensuite, si on veut limiter les situations de crise et d'urgence, il faut organiser le suivi lors de la sortie d'hospitalisation. Sinon, on est dans un cercle qui est sortie d'hospitalisation, arrêt des traitements et de nouveau situation de crise et d'urgence. Et puis, comme le disait Claude tout à l'heure, il n'y a pas que des situations d'urgence, il y a aussi des situations de grande souffrance. Il faut que lorsqu'il y a une situation de grande souffrance, il puisse y avoir une prise en charge immédiate. Ensuite, accès aux dispositifs de diagnostic et de soins. On souhaite... Et on a travaillé là-dessus et on a discuté au sein de notre groupe et puis on a discuté quand on était avec le ministère sur ces sujets-là. On souhaite qu'il y ait une intervention de professionnels jusqu'au domicile si c'est nécessaire. Bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir que des interventions à domicile, mais il s'agit qu'il puisse y avoir ces interventions à domicile. On souhaite aussi, on veut, qu'il y ait accès aux données actualisées de la science et bonnes pratiques professionnelles. J'entends par là l'éducation thérapeutique, les soins de réhabilitation, l'accès aux centres experts, bien sûr, sans omettre les thérapies cognito-comportementales et les thérapies familiales, bien sûr. Ensuite, et j'ai eu l'occasion d'échanger à ce sujet-là, par rapport à l'accès aux soins somatiques, l'espérance de vie de nos proches est inférieure à la nôtre de 10 à 20 ans. Voilà. C'est quelque chose d'inacceptable. Parce que moi, je sais que mon fils, probablement... il va mourir avant moi et c'est inacceptable. Il y a, lors des hospitalisations, des bilans somatiques, ça se fait plutôt bien actuellement. Par contre, 80% des personnes sont suivies en ambulatoire et il n'y a pas de bilan somatique régulier. Je sais qu'il y a un groupe de travail actuellement au niveau de la Haute Autorité Santé qui travaille sur le lien médecin traitant psychiatre et où tout le monde se renvoie la balle de manière élégante. Il y a des patients qui ne vont pas dire à leur médecin traitant qu'ils prennent des neuroleptiques. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend que qui prenne l'initiative de dire il faut un bilan au moins une fois dans l'année. Qui va prendre l'initiative? Voilà. Donc là, il faut que ce soit quelque chose que chacun a sa responsabilité dans cette situation. Donc on peut en discuter au niveau de la Haute Autorité de Santé, mais c'est vous, professionnels, qui devez aussi être conscients que certains patients n'ont pas de médecin traitant et s'ils ont un médecin traitant, ils ne leur disent pas forcément qu'ils sont fous, comme dit Claude. Ils ne le disent pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on met en avant. Voilà. Donc, il faut qu'il puisse y avoir ces bilans somatiques et, bien entendu, un accès aux soins spécialisés. Alors, jusqu'à présent, effectivement, avec le secteur, il y a plutôt une réponse à toutes les situations qui peut y avoir en termes de besoins de soins en psychiatrie. Ça, on ne peut pas le nier. Ce que l'on a connu quand on est malgré soi dans la situation de regarder comment ça se passe, les personnes ont des soins, mais après, qui les accompagne? Qui les accompagne? Il y a quelques SABS, quelques SAMSA, il y a des structures, bien entendu, insuffisantes, où il y a des publics qui sont... il y a une mixité de publics, c'est-à-dire des personnes déficientes intellectuelles que je respecte beaucoup, mais qui n'ont pas forcément à voir avec des personnes qui ont des troubles psychiques. Et puis, eh ben, quand nous, on fait une enquête, une infâme, comme on a fait récemment, il y a 70% des personnes qui sont accompagnées par leur famille. C'est le seul accompagnement. Et ça, c'est pas quelque chose... que l'on revendique, nos familles. On est à notre place de famille. On n'est pas des professionnels de l'accompagnement. Il faut qu'aujourd'hui, on réussisse à travailler là-dessus, parce que sinon, on va rester dans des bonnes intentions, le sanitaire, le médico-social, le social, et au-delà des bonnes intentions, eh bien, on ne va rien mettre en place. Il faut qu'on ait ce souci. Concrètement, moi, je suis dans le concret, là, de comment on va organiser sur les territoires ce lien sanitaire, médico-social et social. Pour que les personnes vivent dans la cité. Moi, j'ai connu l'UNAFAM il y a 20 ans, on réclamait des structures. Aujourd'hui, j'entends beaucoup moins. Bien sûr, pour les personnes vieillissantes, on réclame encore des foyers. En plus, parce que quand ils sont dans les familles, La famille a 80 ans et se dit qu'est-ce qui va se passer quand je vais disparaître, si effectivement la personne malade est toujours là. Donc il y a ce souci, il y a un besoin de structure, mais c'est pas le besoin, c'est pas une revendication, une demande essentielle aujourd'hui. Aujourd'hui, les familles et beaucoup de malades sont dans des logements autonomes, mais autonomes. On connaît le degré. Voilà, donc avec un accompagnement, même les personnes, quand on a fait notre enquête, même les personnes souffrant de troubles psychiques disent « je n'ai pas d'accompagnement », mais en fait, on voit bien qu'il y a un accompagnement de la famille. Voilà. On veut que les personnes vivent dans la cité. C'est fini l'époque où on vous annonce un diagnostic qui vous annonce finalement votre proche, il ne fera rien de sa vie. Moi, je veux que nos proches, ils puissent se projeter, qui sont en situation de rétablissement, en capacité d'agir, et ça dès le début de la maladie. On sait qu'ils ne vont pas guérir, certes, ou très peu, enfin il y a des théories un peu différentes là-dessus, mais on sait qu'ils peuvent avoir une vie qui vaut le coup d'être vécue. Voilà. Et les besoins des personnes en accompagnement, on ne doit pas leur imposer. C'est à eux de dire ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Mais il faut que cet accompagnement, il existe. Donc c'est une voie qu'on porte, nous, au niveau de la CNSA. On avance un petit peu. Je dois dire que sur les 9 derniers mois de l'année, cette année puis l'année précédente, on a pas mal avancé avec le gouvernement. Trop tard pour qu'on puisse avoir des avancées significatives. Autre point, respect des droits des personnes présentant des troubles psychiques. C'est quelque chose qui est très important. On a tous en tête des situations dramatiques qu'il y a eu l'an dernier, enfin découvertes l'an dernier, en termes d'isolement et de contention. Il y a eu tout un travail qui a été fait par la Haute Autorité de Santé. Bien sûr que nous, familles, on sait bien que les personnes, elles peuvent être violentes par rapport à elles-mêmes ou par rapport aux autres. Il y a tout un travail qui a été toute une réflexion qui est menée pour limiter, pour que ce soit un dernier recours. Et pour nous, c'est très important, ce respect des droits et de la dignité des patients. Je termine parce qu'on m'a fait signe qu'on était trop longue. La nécessité du soutien de l'entourage, que ce soit des conjoints, parce qu'on a pas mal de conjoints qui s'adressent à nous parce qu'ils n'en peuvent plus. Les parents, les frères et sœurs, importants, ils sont tous impactés par ce qui se passe autour d'eux. Et puis les enfants de malades aussi, parce qu'il y a des enfants de malades qui prennent des responsabilités par rapport à leurs parents, qui ne sont pas de leur âge et ils ont besoin de ce soutien. Donc notre défi, je termine là-dessus, c'est d'être dans une dimension sanitaire, psychiatrie et somatique, et en même temps en lien avec le médico-social. Il faut renforcer la pertinence, la qualité et l'efficience des prises en charge et des accompagnements des personnes dans leur milieu de vie ordinaire.